Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cet épisode vous est présenté grâce au soutien généreux de Oxio, le premier partenaire du balado de Détour. Quand vous choisissez Oxio comme fournisseur d'Internet, vous êtes garanti de recevoir le service le plus transparent possible. À chaque mois, vous pouvez vous attendre à un service fiable à juste prix, car avec Oxio, tout le monde dans ta région paie les mêmes tarifs. Visitez canadaland.oxio.ca et utilisez le code promo CanadaLand pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois. Bonjour, je m'appelle Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de CanadaLand. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Vanessa Destiné, journaliste et chroniqueuse dans plusieurs médias. Bonjour Vanessa.
Bonjour Émilie.
Ça va?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Oui, ça va bien. Dans ce troisième épisode, aujourd'hui, on va discuter du mot en N. Et de la discussion du CRTC en lien avec l'utilisation du mot et de tout le maudit gros bordel qui est là depuis. On va avoir beaucoup de plaisir. Et on discute de la façon dont on discute des fêtes nationales dans les médias. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Rory Rodsep-Hearn, John Saint-Godard, Frank Hay, Kat Guérin, Shane Bartlett, Jay Pariser, Younes Zuher et Trish.
Bonjour, je suis Trish, ontarienne d'origine qui a récemment émigré à Dublin. Je suis traductrice, réviseur et chercheuse et j'appuie CanadaLand parce que j'apprécie qu'on n'ait pas peur de poser des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse encore. Je suis surtout ravie de l'arrivée de Détour, qui fait de CanadaLand un lieu bien spécial, accordant une place importante aux perspectives qui dépassent les univers anglophones et unilingues.
Lettre ouverte ce matin de tête d'affiche de Radio-Canada, notamment Céline Galipeau, Patrice Roy, Guy Lepage, Michel Desautels, Alain Gravel, Alec Castonguet, bref, des personnalités connues de Radio-Canada qui demandent de contester vigoureusement la récente décision qui a été rendue par le CRTC et qui demandent à Radio-Canada de présenter des excuses publiques pour avoir manqué de respect et de sensibilité en diffusant une chronique dans laquelle le titre du livre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique » avait été mentionné. Il me semble que c'est un peu insensé. Alain Gravel, que vous connaissez tous, bien sûr, qui est journaliste, qui a été animateur également à l'émission du matin Radio-Canada, est avec nous. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors, c'est un peu étrange, cette décision-là du CRTC, n'est-ce pas?
Ben, à un tel point que moi, personnellement, ça m'empêchait de dormir, puis j'ai décidé de sortir de mes vacances pour essayer d'organiser donc ces signatures. Donc, j'en ai une mission aussi la fin de semaine, j'en ai mis le matin. Ça m'est arrivé peut-être à 3 ou 4 reprises de prononcer le titre du livre de Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière. Je peux vous dire une chose, c'est que chaque fois, je pense que maintenant tout le monde, tous les journalistes au Québec, avant de le fait pas inutilement, le fait avec respect, parce que c'est factuel, point.
Bonjour Vanessa.
Salut Émilie.
Donc, gros causé, comme on dit en créole, gros chose, beaucoup de choses.
Il y a le bail.
Beaucoup de choses à dire.
Le bail est lourd.
Le bail est lourd. Beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment pas tout le monde qui a suivi ce dont on parle en ce moment. Donc, je pense que c'est important, avant de rentrer dans la discussion, de bien rappeler les faits de ce qui vient de se passer donc autour du mot en haine. Donc, le 29 juin, le CRTC a rendu publique une décision qui a rendu suite à une plainte à l'encontre de Radio-Canada concernant l'utilisation du mot en haine en ondes. Donc, cette plainte avait été déposée suite à un segment diffusé sur l'émission de radio 15-18 sur ici Radio-Canada Première, donc la première chaîne, le 17 août 2020. Donc, durant ce segment-là, il y a l'animatrice de l'émission, Annie Desrochers, et le chroniqueur Simon Jaudoin, qui discutaient d'une pétition qui avait été lancée pour exiger le renvoi d'une prof qui avait prononcé le mot « en haine » dans un cours en référence au titre d'un livre de Pierre Vallière. Donc, l'animatrice et le chroniqueur discutent de ça. Durant le segment, il prononce le mot « en haine » 3 fois en français et 1 fois en anglais. Il y a d'abord une plainte qui est déposée par Ricardo Lamour, qui est une personne qu'on connaît tous les deux, et qui avait été donc portée auprès de la Société Radio-Canada en août. L'Ombudsman de Radio-Canada rend une décision qui dit que Radio-Canada n'a pas contrevenu aux normes et aux pratiques journalistiques. L'émission aussi dit que l'usage du terme était ni abusif ni inconsidéré. Donc, il y a une plainte qui est par la suite déposée au CRTC directement pour réviser les conclusions de l'Ombudsman de Radio-Canada. Et c'est cette décision-là du CRTC qui vient d'être rendue la semaine dernière et qui dit beaucoup, beaucoup de choses et qui fait beaucoup jaser depuis et qui a été aussi une décision du CRTC divisée. Donc, il y a l'opinion majoritaire qui demande notamment des excuses à Radio-Canada et demande d'avoir plus d'avertissements, plus de contexte autour de l'utilisation du mot en haine. Et il y a aussi un avis minoritaire, 2 avis minoritaires de membres du CRTC qui n'étaient pas d'accord avec la discussion majoritaire et qui ont exposé en long et en large pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec cette discussion-là. Et depuis, c'est, je disais en introduction, c'est le bordel. Je pense que c'est une bonne façon de l'écrire. Il y a tellement de choses qui se sont dites là-dessus, dans l'opinion minoritaire et dans plusieurs textes qu'on nomme là-dessus. On parle de censure. Pourquoi? Pourquoi on parle de censure? Pourquoi c'est si important de pouvoir nommer le titre du livre de Pierre Vallière en ondes? Qu'est-ce qui se passe au Québec en particulier avec le mot en haine depuis comme près de 2 ans? What's up, Vanessa?
Il semblerait que le journalisme est à la veille de s'effondrer devant l'incapacité à prononcer le mot en haine parce qu'apparemment toute la profession repose sur ce pouvoir-là. Pour vrai, en écoutant en ce moment les journalistes, des cadres, des animateurs, des présentateurs, des reporters, des anciens ombudsman, des anciens journalistes, des poids lourds de l'information qui sont aujourd'hui retraités comme Bernard de Rome, Pierre Bruno, retraité depuis peu, qui commentent la décision du CRTC en évoquant, là, dans le fond, l'espèce de panique morale qui entoure un peu les guerres culturelles qu'on voit aux États-Unis, où il y a un affrontement là, entre une droite qui est de plus en plus décomplexée et de plus en plus radicale sur certaines questions et les courants de gauche associés au progressisme, à l'antiracisme, au féminisme. Des gens qui ont eu un monopole de pouvoir pendant très, très longtemps n'arrivent pas à comprendre comment certains groupes peuvent remettre en question des façons de faire, des réflexes, l'utilisation de certains mots. Donc, ça vient les déstabiliser parce qu'ils ont toujours eu l'habitude de les utiliser sans aucun problème et ils se rangent derrière une espèce de posture intellectuelle pour défendre finalement un point de vue intellectuellement parlant et pas aussi solide qu'ils pensent en fait. Et il y a tout un argumentaire là, qui s'est construit là, autour du mot en haine au Québec parce que ce mot-là qui a toujours été un mauvais mot, là, on va se le dire, là, on le sait que c'est un terme péjoratif, mais ce mot-là a été, comment je pourrais dire, réhabilité au nom de l'art à travers 2 œuvres majeures dans l'histoire du Québec, soit l'essai de Pierre Vallière sur la condition des Canadiens français au tournant des années 50-60-70, également le livre de Danny Laferrière, donc « Comment faire l'amour à un noir sans se fatiguer » où le terme péjoratif est utilisé, qui marque, dans le fond, l'espèce de, comment je pourrais dire, sa reconnaissance intellectuelle, tu sais, sa reconnaissance à titre d'auteur, une œuvre qui a fait énormément jaser et qui l'a placé sur la map. Et aujourd'hui, on sait, il a un statut, là, celui d'immortel, carrément, à l'Académie française. Donc, il y a vraiment toute une aura aussi de prestige, une aura, là, comment je pourrais dire, de grandeur autour de l'utilisation de ce mot-là. Et les personnes blanches du Québec se sont appropriées ce terme-là parce que ça fait maintenant partie de leur histoire, selon elles, justement à cause cause de cette première utilisation par Pierre Vallière dans les années 70 pour décrire leurs conditions socio-historiques que lui comparait à celles des Noirs américains.
Mm-hmm. Actuellement, il y a plusieurs niveaux de contexte. Il y a le contexte historique au Québec dans les années 60-70 d'une partie des militants plus radicaux nationalistes, internationalistes aussi de la gauche québécoise qui se sont mis à faire des métaphores souvent douteuses entre la condition historique des Canadiens francophones et celle des gens en Algérie, des Afro-Américains, des gens en Haïti. Et ça a donné cette espèce de métaphore mixte qui est le titre du livre de Pierre Vallière. Et souvent, les gens n'ont jamais lu le titre, mais c'est comme si quand on remet en question la validité de cette métaphore-là, c'est comme si pour plusieurs personnes, c'est reçu comme si on remettait en question la validité de l'expérience historique des Canadiens français, essentiellement, là. Donc, ça crée quelque chose d'excessivement émotif, juste de dire « arrêtez de comparer des pommes et des oranges », c'est-à-dire la situation des Canadiens français et celle des personnes afro-descendantes. Premier élément de contexte que t'as nommé. Deuxième élément de contexte que j'entends, c'est depuis 2 ans, en fait, il y a eu une avancée au Québec comme partout ailleurs, au Canada, en Amérique du Nord, suite à la mort de George Floyd, il s'est passé beaucoup de choses. Puis juste après, c'est comme s'il y a eu un retour du balancier, essentiellement, les gens qui disent, bon, là, les personnes noires ont comme trop gagné de terrain, faudrait les remettre un petit peu à leur place, là, ou une espèce d'envie de dire, est-ce qu'on va trop loin dans notre diversité d'inclusion? Et là, toute la panique morale autour du terme « wokisme », qui était présent aux États-Unis, qui est présent aussi au Canada anglais, mais qui est très, très forte au Québec. Il y a des chroniques sur le terme « wokisme », sur le « woke », qui s'écrit à chaque semaine dans les médias québécois. Et ça, je pense que c'est aussi un élément de contexte qui est vraiment important à nommer.
Tout à fait.
Que cette décision-là du CRTC, ce débat-là sur le mot en haine, se passe dans un contexte où on est constamment en train de demander « les minorités vont-elles trop loin ?» dans leur revendication, qui est essentiellement pour leurs droits humains, la dignité. Puis ensuite, il y a tout ce qui s'est passé avec le débat sur l'Université d'Ottawa, donc le fait qu'il y a eu une série de chroniques, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus d'ailleurs, sur la série de chroniques d'Isabelle Haché, qui est chroniqueuse à la presse, qui a sorti donc sous forme de chronique une histoire de prof qui avait été réprimandé par l'Université d'Ottawa pour avoir cité le titre de Pierre Vallière et d'avoir utilisé le mot N dans un cours. Et elle a partagé sous forme de chronique, c'est-à-dire que comme chronique, on n'a pas besoin d'être objectif. Donc, il y a seulement le point de vue de la prof qui a été partagé dans cette histoire-là. Et ça a créé, bien sûr, un biais dans la façon dont cette histoire-là a été rapportée dès le début. Et ça a créé toute une controverse qui a mené à l'Assemblée nationale, même l'adoption d'une loi au mois de juin avant que l'Assemblée nationale parte en cause sur la liberté académique, où on est carrément en train de changer la manière dont les universités devraient définir et régir la liberté académique dans un contexte qui a été manufacturé politiquement autour du mot en haine. Et on le voit dans les consultations qui ont eu lieu sur le projet de loi, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est toute la définition de la liberté académique tourne autour du mot, de l'angoisse. Est-ce qu'on peut dire tous les mots? Et par tous les mots, on veut dire le mot en haine. Donc, il y a ça. Et là, bien sûr aussi, il y a Radio-Canada versus le CRTC et le fait que CBC, Radio-Canada, c'est une affaire, mais c'est deux affaires différentes en même temps. Puis qu'il y a du monde à Radio-Can qui aime pas ça se faire dire quoi faire par Ottawa. Ottawa étant ici le CRTC. Il y a tout ça. Il y a tout ça qui est mélangé et ça donne des réactions politiques. Il y a le premier ministre qui réagit à cette décision-là du CRTC. Il y a tout le monde, en fait, des anciens du CRTC, des anciens ombudsman de Radio-Canada, les têtes d'affiche de Radio-Canada, tout le monde, sauf à peu près, à part toi, puis peut-être une ou deux personnes. Je pense que, Vanessa, tu viens de publier une lettre ouverte sur la question dans Le Devoir. Mais j'ai vu à peu près personne dans les communautés noires réagir à cette affaire-là.
On est fatigué.
Mais Non, on est fatigué. Hein. Étais-tu fatiguée, Vanessa?
Oh my God, fille, j'ai des cernes. Le public peut pas le voir en ce moment, les gens qui nous écoutent, mais, ouais. mais j'ai des cernes parce que cette histoire-là me taraude depuis plusieurs jours déjà. Tu sais, puis mm-hmm. c'est cette responsabilité de dire quelque chose, d'intervenir, parce que tu vois qu'il y a un débalancement au niveau de la prise de parole. C'est majoritairement des personnes blanches qui s'expriment, et pas n'importe quelle personne blanche, des personnes blanches qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence dans notre société. Il y a carrément un groupe de personnes blanches qui a signé une lettre en se définissant eux-mêmes comme tête d'affiche. Donc, déjà, on comprend que c'est le star power de la télévision. Et un autre groupe qui a signé en disant « Nous sommes les poids lourds de l'industrie médiatique du Québec ». Donc, s'auto-définir comme un poids lourd, c'est de montrer l'étendue de notre pouvoir, puis de se mettre en meute ensuite, en gang, pour écrire. C'est vraiment une tactique d'intimidation. Moi, je le vois comme ça. Il y a beaucoup des réactions qui ont été mises de l'avant après la décision du CRTC, notamment celle des têtes d'affiche, qui auraient pu être communiquées directement à la direction de Radio-Canada, à l'interne.
Oui, là, juste pour que les gens suivent, là, tu parles d'une lettre ouverte qui a été publiée le 4 juillet
oui.
dans la presse, signée par
une cinquantaine
de personnes, c'est ça, qui s'auto-définissent comme les têtes d'affiche de Radio-Canada. Et vous avez effectivement là-dedans une grande partie du védétariat de Radio-Canada. Vous avez des chefs d'antenne, vous avez des gens qui sont des animateurs, qui sont pas nécessairement journalistes, mais vous avez aussi des chefs d'antenne, des gens qui sont, comment dire, soumis à le code de déontologie journalistique de Radio-Canada, et donc le devoir aussi de réserve, le devoir de neutralité.
Mm-hmm.
Donc, il y a une pression qui est mise à l'intérieur de Radio-Canada pour que la direction de Radio-Canada, qui sont interpellés, c'est-à-dire la PDG et les vice-présidents, dont le vice-président de Radio-Canada, Michel Bissonnette, Luce Julien, qui est la directrice donc de la salle de nouvelles, de l'information, pour que ces gens-là refusent de donner les excuses demandées par le CRTC. Donc, il y a comme une espèce de mouvement de rébellion qui se passe. Quand tu as vu cette lettre-là, ça a été quoi ta première réaction?
Ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué parce que Radio-Canada, c'est un endroit où tu peux être convoqué dans le bureau des boss pour un like qui date de 2015 là, sur un vieux statut Facebook qui prend position sur je sais pas quoi, les gaz bitumineux. Tu sais, c'est le genre d'endroit où on va constamment nous ramener à l'ordre en nous parlant là, tu sais, comme de l'espèce de comment je pourrais dire, de l'institution. Tu sais, il y a vraiment comme une espèce d'esprit de loyauté d'abord, ça c'est sûr, l'attachement à l'institution. Mais aussi, on se drape autour là, de ces principes-là qu'on appelle les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada, qui sont des fondements, dans le fond, qui garantissent la bonne pratique du métier de journaliste à Radio-Canada. C'est pas tous les médias qui sont soumis aux normes et pratiques, c'est vraiment quelque chose à l'interne. Et c'est ce qui fait en sorte que Radio-Canada a des standards, entre guillemets, qui se veulent irréprochables aux yeux du public. C'est ça, la longue tradition de journalisme de qualité. Elle s'appuie sur ces principes-là. Mais de voir justement que finalement, ces principes-là sont super élastiques puis sont super malléables, puis que le moindrement que tu as du temps d'antenne à la télévision, tu as le droit d'y contrevenir, je me suis posé de sérieuses questions sur les rapports de force qui existaient à l'interne à Radio-Canada. Je me suis posé de sérieuses questions sur la liberté de parole des employés afro-descendants racisés et aussi leurs alliés en ce moment, dans un climat qui visiblement attise à la confrontation, attise à la tension. T'sais. C'est vraiment avec nous ou contre nous, en fait, ce que ça veut dire ces lettres-là. T'sais. C'était une lettre signée par une cinquantaine de visages des médias, tous médias confondus, et c'était le titre « Il faut contester la décision du CRTC ». Et encore, ce sont des gens qui s'estiment être les gardiens en fait du savoir, les gardiens en fait de la rigueur, de l'intégrité journalistique, et qui décident de prendre position comme ça pour donner du poids à leurs collègues présentement en poste. Donc, ça vient réduire complètement au silence les voix marginales, les voix minoritaires, qui sont déjà stigmatisées à l'intérieur de la boîte, parce que le moindrement que tu émets une opinion un peu féministe ou un peu antiraciste à Radio-Canada, tu es perçu comme un militant et on peut te retirer des projets. On peut dire « Ah non, on va pas te mettre. Toi, tu es une journaliste noire, on va pas t'envoyer couvrir la manifestation de Black Lives Matter à Montréal parce que tu as un billet. » Et de prendre pour acquis que le collègue blanc, lui, à côté, il y en a pas, il y en a jamais de biais. Lui, il incarne toujours l'objectivité, tu sais. Alors que c'est pas possible. On a tous des biais. On est tous influencés par notre milieu, par nos expériences de vie, par notre formation professionnelle, académique, etc., etc., nos expériences, tu sais. Mais on présume toujours que les personnes racisées sont toujours sur la ligne, là, à la veille de franchir la ligne de l'objectivité, sont pas capables de l'être, tu sais, sont pas capables d'être neutres, alors que pour les personnes blanches, on prend toujours pour acquis que, ah, oh ben non, tout ce qu'elles disent, c'est, est objectif, fait l'objet d'une réflexion approfondie, qui est totalement rationnel, alors que c'est souvent pas le cas, malheureusement.
Oui, parce que là, t'amènes comme peut-être l'autre élément de contexte, parce qu'il y en a tellement plein, j'ai l'impression qu'on va juste passer la discussion en parler de contexte, en fait, mais c'est tellement important parce que il y a aussi, donc, dans Radio-Canada même, énormément de débats et de discussions internes sur ce qui est convenu d'appeler équité, diversité, inclusion depuis déjà un bon moment. Ça vient, on dirait, par vague. Il y a eu, bien sûr, des gros débats il y a quelques années sur la pertinence de mettre du blackface en onde, que ça a créé beaucoup de discussions. Finalement, on a décidé de pas en faire. Ah, yeah. Ensuite, il y a eu la question, bien sûr, de l'appropriation culturelle, bien sûr, la pièce slave aussi, il y a quelques années, qui a créé tout un débat, particulièrement dans le milieu médiatique, mais aussi culturel et artistique, sur la question de l'appropriation culturelle. Et puis, suite à la mort de George Floyd, il y a eu tout un mouvement dans les médias pour reconnaître le racisme systémique. Ça a pris du temps, d'ailleurs, avant qu'on reconnaisse le racisme systémique du côté francophone. Il y a beaucoup de gens qui voulaient pas faire ça à cause du contexte spécifique au Québec sur le débat sur le racisme systémique. Donc, suite à ça, il y a une démarche à l'interne qui a été entreprise et là, il y a un rapport qui est sorti, donc il y a une consultation à l'interne des employés qui a été faite pour garder, bon, qu'est-ce qui fonctionne moins avec la culture de Radio-Canada. Ce rapport-là a été publié donc l'an dernier, en 2021, au début de 2021. Et ce qui est ressorti, c'est effectivement une culture où il y a des employés, notamment des employés racisés, qui se sentent pas nécessairement à l'aise de parler, de partager leur point de vue, de partager leur discussion. La perception de culture de vedettariat de Radio-Canada protège ses vedettes est aussi ressortie de ça. C'est la même chose d'ailleurs du côté de CBC. Je pense la grosse crise qui avait causé ça, c'était Gian Gomeshi qui avait remis en question aussi toute la culture de la vedette à CBC. Mais donc, il y a ce côté-là du vedettariat et ce qui est frappant, et je pense que c'est aussi la réaction, ce que je lis dans le texte d'opinion que tu publies dans Le Devoir là-dessus, c'est comme si on est censé être en réflexion sur la culture de la vedette à Radio-Canada. Et en fait, pendant ce temps-là, les vedettes font une sortie en disant « Nous sommes les vedettes, donc écoutez-nous » et ont utilisé ça comme moyen de pression sur la direction de Radio-Canada. La question que tu lèves, qui est vraiment importante, c'est où est-ce que ça laisse, en fait, les employés juniors, qu'ils soient racisés ou pas, parce que je pense que c'est vraiment aussi beaucoup une question de clivage générationnel.
Absolument.
Dans le journalisme. Les journalistes plus jeunes, milléniaux et en descendant, ont souvent pas les mêmes sensibilités, pas les mêmes définitions de ce que ça veut dire l'éthique en journalisme. Et il y a une division assez générationnelle, pas seulement, mais notamment dans les salles de nouvelles.
C'est très marqué.
Ouais, et c'est comme si les seniors ont dit aux juniors, ont essentiellement shotgunné la position des employés dans les médias. Et là, pour les juniors, ça les met dans une position où soit on dit rien, soit on se met dans une position où on est en désaccord explicitement avec les têtes d'affiche, avec les gens qui ont énormément de pouvoir, avec les gens qui ont le star power. Et ça devient extrêmement, probablement, je peux juste imaginer le climat interne, je peux juste imaginer aussi la façon dont les personnes noires qui sont des employés de Radio-Canada qui n'ont pas été contactés pour signer ces lettres-là, soit qui ont refusé de le faire, la façon dont ça a dû se faire et les débats que ça a dû susciter aussi à l'interne. Il doit y avoir beaucoup de malaise dans la nouvelle maison de Montréal en ce moment.
Je peux te le confirmer. Il y a des gens que je connais même pas qui m'écrivent pour me remercier d'avoir pris la parole, d'avoir été cette voix-là que eux pensaient pas pouvoir revendiquer parce qu'ils sont estomaqués là par ce qui se passe et malheureusement le devoir de réserve, le devoir de loyauté les empêche de discuter. Et c'est important de dire que c'est pas juste dans la salle de nouvelles parce que Radio-Canada c'est vaste, c'est des ressources humaines, c'est des technologies de l'information, c'est des gens qui travaillent à la comptabilité, c'est des gens qui travaillent au marketing, tu sais. Et là-dedans, il y a des gens là, de toutes les classes de citoyens, toutes les couches de population qui sont là aussi puis qui regardent ce qui se passe dans la salle de nouvelles puis sont comme « Ah, yo, tu sais, comment moi, fille, je sais pas, tu sais, à la comptabilité, je pourrais intervenir dans ce débat-là. Je peux pas, tu sais. C'est qui va call out Céline Galipeau parce qu'elle a signé une lettre, tu sais, dans la presse? Personne. Personne n'a le courage de faire ça. C'est même pas une question de courage, tu sais. À un moment donné, il faut faire des choix, tu sais. C'est parce que si tu compromets ta sécurité à l'intérieur de l'organisation, ben, l'organisation peut juste choisir de se passer de toi. Donc, on finit par serrer les dents, fermer notre gueule parce qu'on sait que un renvoi ou une suspension est si vite arrivée et que ça va pas juste pénaliser toi, ça va pénaliser l'ensemble de ta communauté aussi, tu sais. Donc, ça va te freiner toi dans ton parcours, dans ta trajectoire professionnelle. Puis ça va, comment je pourrais dire, amener une espèce de réticence à mettre davantage de personnes issues de la diversité dans des postes décisionnels, notamment parce qu'on est comme, ah ben tu sais, il y a un risque qu'il y ait un biais ou qu'il soit militant. C'est tout le temps ça qui revient. Le mot militant revient souvent pour discréditer des revendications qui sont au final très légitimes, mais qui sont même pas considérées comme telles, tu sais. On n'a même pas le temps d'en débattre, c'est juste, oh non, c'est du militantisme.
T'sais. Non, c'est ça, mais c'est en fait, c'est parce que quand tu vois à l'interne ce qui se passe, il y a des gens qui ont été engagés dans l'équipe diversité, inclusion, truc machin, qui n'étaient pas là avant, donc il y a un département qui se crée à ce niveau-là. Il y a du travail qui est fait au niveau des ressources humaines pour offrir des formations, etc. là-dessus. Donc, il y a comme une espèce de mouvement à l'interne sous la direction, sous l'impulsion de la direction pour essayer de pousser un peu dans cette direction-là. Et là, il y a le backlash de certains employés. En tout cas, moi, je peux juste imaginer ce que ça cause à l'interne, mais je pense que t'es la seule personne que j'ai vue dans ce débat-là présenter la question sous forme, non pas de comme débat idéologique, les woke versus les vrais journalistes, mais vraiment comme une question essentiellement de relations industrielles, de ressources humaines, de relations de travail. Parce que, en fait, c'est ça aussi qui se joue à l'interne quand on est dans ce milieu-là.
Et pas juste ce milieu-là, ouais. Tu sais, c'est des rapports de force qu'on retrouve tout aussi à l'université. Donc, ouais. Pas mal dans toutes les institutions en ce moment qui se démocratisent, c'est-à-dire qui font de la place à de plus en plus de gens. Et forcément, parce que c'est de plus en plus de gens, c'est de plus en plus de profils de gens. On assiste à un choc entre la vieille garde et justement cette espèce de renouvellement-là de la classe sociale au sein de ces institutions-là, tu sais.
Vanessa, j'avais envie de terminer notre discussion sur une grosse question qui aurait pu être un autre épisode en soi, mais vu le contexte que tu viens d'évoquer, des relations de pouvoir, comme tu disais, dans les médias à l'université, mais en fait dans tous les milieux de travail, puisque on insiste sur les médias parce que ben c'est sur le sujet du jour, puis aussi c'est le milieu dans lequel on est toutes les deux, mais j'avais envie de te poser la question du coût de l'expression pour les personnes qui prennent la parole sur ces contextes-là. Puis en étant comme tout à fait transparente sur le fait qu'on est toutes les deux faisons partie d'une poignée de personnes noires qui sont constamment sollicitées pour intervenir sur ces questions-là depuis plusieurs années. Qu'on était justement allé à Tout le monde en parle ensemble avec Ricardo Lamour qui est d'ailleurs devenu le plaignant et Webster, une autre personne, pour discuter du mot en haine à l'automne 2020. Donc on fait tout ça. C'est sûr qu'il y a des réactions quand on fait ça. Il y a des belles réactions, mais aussi des réactions difficiles. C'est vraiment pas évident, même pour la sécurité personnelle, d'être transparente comme tu viens de le faire en ce moment. D'ailleurs, je veux que les gens comprennent que le niveau de transparence qu'on a en ce moment dans nos discussions est vraiment pas évident à avoir dans plusieurs espaces.
Tout à fait.
On est donc content d'avoir des tours pour être capable de se parler comme ça. Mais c'est quoi pour toi le coût de cette expression-là? Parce qu'on parle de liberté d'expression, c'est quoi le coût, Vanessa, à toi, de ton expression?
Le coût, c'est de perdre en fait ma voix, de la voir s'éteindre un peu malgré moi parce que je suis de plus en plus fatiguée, de plus en plus lasse, d'être instrumentalisée, c'est-à-dire que là, c'est la question de la sur-sollicitation revient beaucoup et je vais y revenir, mais déjà là, tu me parles puis je suis encore ébranlée d'un événement qui s'est passé il y a quelques jours là, dans le transport en commun à Montréal. Je me suis faite agressée verbalement par un homme qui m'a reconnue de mon travail dans les médias, qui en avait une dent contre les médias en général, puis il m'a reconnue, puis son attaque a commencé sur mon milieu et s'est rapidement personnalisé. Donc, s'est déplacé sur ma personne, s'en est pris à mes cheveux, s'en est pris à mon look, s'en est pris à mes opinions sur la guerre en Ukraine. C'est super random, mais c'est une violence, en fait, que j'expérimentais déjà en ligne. Mm-hmm. Toute l'espèce de déshumanisation, le fait d'être une cible pour des gens qui sont pas d'accord avec une opinion et qui soudainement s'attaquent à ton physique, à ta sexualité, parce que les femmes, on est souvent ramenées à nos organes sexuels, au fait qu'on est mal baisé, qu'on a du sable dans le vagin. Tu sais, c'est toujours, c'est jamais vraiment longtemps sur le débat des idées. C'est rapidement rattaché à ton identité, tu sais, de se faire traiter du N-word, de me faire dire de retourner dans mon pays, de me faire dire que si c'était pas des personnes blanches, je serais encore dans un arbre en train de cueillir des bananes. On m'a dit tout ça en ligne, tu sais. C'est d'une violence. Mais là, cette violence-là, elle a toujours le potentiel de se transposer dans la vie réelle. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est arrivé à moi, c'est arrivé à Carla Beauvais il y a pas si longtemps aussi, qui recevait là une femme noire impliquée dans le milieu, qui recevait des menaces de mort par téléphone chez elle. Tu sais, ton dernier rempart.
On peut-tu finir par une liste de shout-out aux guerrières en break? Tu sais, comme, pas, je veux pas dire tomber au combat, mais qui ont pris une pause.
Dûment méritée, totalement.
Oui, des femmes noires, comme Carla Beauvais, que tu viens de nommer. Carla Beauvais, pour les gens qui la connaissent pas, qui était une chroniqueuse au journal Métro, qui a arrêté d'écrire sa chronique. Après avoir écrit une chronique célébrant essentiellement l'entrepreneuriat noir et le Buy Black Movement.
L'équivalent du panier bleu pour les Noirs, tu sais, tout simplement.
C'est ça, qui s'est fait attaquer par un chroniqueur de Québécois, Mathieu Bocoté. La violence qu'elle a subie de ses fans était tellement élevée, les menaces qu'elle a reçues. Pour sa propre sécurité, la sécurité de sa fille, elle a décidé d'arrêter d'être chroniqueuse. J'en parle parce qu'elle en a parlé publiquement, d'ailleurs, dans une campagne.
Oui, tout à fait.
Bloquons la haine, que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de la Fondation canadienne des relations raciales. Je voudrais aussi faire un shout-out à Marie-Lou Kraft, qui
évidemment
est aussi donc une consultante dans le milieu culturel, dramaturge, dans le milieu du théâtre, qui avait écrit la première lettre ouverte pour critiquer le spectacle de Slav, qui a parti essentiellement la discussion sur l'appropriation culturelle dans le spectacle de Slav, qui s'est fait ramasser aussi, qui vit les conséquences professionnelles de sa prise d'expression depuis le début. Nydia Dauphin, qui avait écrit plusieurs années un texte pour dénoncer le blackface à Radio-Canada, qui s'était fait aussi ramasser. Je pense à l'époque, c'était la presse aussi québécoise, que ça avait été...
Et même le journal de Montréal, en fait,
ça.
C'était Lise Ravary, Judith Lucier, Patrick Lagacé, ouais. Rami Ramal dans Urbania avait peinturé son visage avec du Nutella et avait titré son article « Chère Nydia ».
C'est ça.
Et dans le fond, on l'envoyait chier.
C'est ça. Nydia qu'on n'entend plus parler dans les médias depuis, qui a décidé d'aller ailleurs. Puis de dire aussi qu'il y a combien de personnes noires, mais particulièrement, je trouve, des femmes, qui aimerait ça, peut-être prendre la parole dans les médias, devenir chroniqueuse, devenir journaliste, et qui voit ça aller, qui voit les personnes qui ont pris un certain espace et qui ont été brûlées par la violence des choses, et qui, c'est comme un peu des Mozart assassinés au sens où...
Des belles plumes, des femmes vives, d'esprit intelligentes.
Que vous aurez jamais connues, essentiellement, qui n'auront pas écrit, et qui nous disent, en tout cas moi, je vais pas parler pour toi Vanessa, mais qui me disent, je sais pas comment tu fais pour être là. Et d'une façon qui implique, c'est un compliment, mais ça n'en est pas un, parce que ça implique en fait que c'est comme trop dangereux pour elles, alors qu'elles ont tellement de talent, elles ont tellement de choses à dire.
Et pas juste sur la négritude, le Seigneur. Non. Là, je veux dire, c'est des voix qui auraient contribué à l'ensemble de la société. Ce sont des femmes qui sont diplômées, et même non diplômées, je veux dire, il n'y a pas de légitimité là, à avoir en termes académiques là, pour prendre la parole dans l'espace public, mais je veux dire qu'elles ont des expertises qu'on aurait pu aller chercher sur une foule de sujets, et là, on est rendu à s'en passer. Shout-out aussi à Rachel Descosses dans la saga des moustiques. Oui. Shout-out à Elena Studley, qui est allée à Tout le monde en parle aussi, je pense c'était le blackface aussi. Donc, d'autres femmes, encore une fois, qui ont été visées là, par des attaques haineuses. Et je voulais revenir juste en terminant très rapidement sur la sursollicitation, parce que c'est vraiment un enjeu aussi. C'est que, écoute, on me fait parler malgré moi dans des articles, c'est-à-dire en allant chercher des vieux trucs que j'ai écrits sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, je refuse des demandes d'entrevue et on trouve une façon de me citer quand même, de me faire participer à des controverses malgré moi, contre mon gré. Ça est arrivé dans le cas de Nuit d'Afrique, où j'ai fait une story Instagram dans laquelle je disais « je ne veux pas » qu'on me sollicite relativement à cette question. Arrêtez de m'envoyer des captures d'écran de cette histoire. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Pour moi, c'était écrit dans le ciel que ça allait mal aller. Et il y a un journaliste de la presse qui a pris ça et qui l'a mis dans son article, qui a écrit « Vanessa Destiné a écrit « C'était écrit dans le ciel que ceci se produirait ». Alors que j'avais spécifié dans mon message que j'étais tannée qu'on me sollicite sur ces questions-là, alors que je pense qu'il y a des personnes bien placées, mieux placées que moi pour y répondre, tu sais. Mais c'est ça, c'est qu'on en vient à... être dépossédé de notre voix. Puis ça aussi, c'est très, très frustrant parce que je suis articulée, j'ai pas besoin d'intermédiaire pour dire ce que j'ai à dire, tu sais. Et des fois, je fais le choix du silence et c'est une position politique aussi, le silence, tu sais.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode vous est présenté grâce au soutien généreux de Oxio, le premier partenaire du balado Détour. Vanessa, utilises-tu ça, toi, Internet?
Oui, j'adore naviguer sur l'autoroute de l'information.
Alors, t'es concernée par cette annonce-là. En fait, dans le deuxième segment, on va parler des fêtes nationales. Mais en fait, moi, pour la fête du Canada, comme beaucoup de Québécois, j'en ai profité pour déménager. Donc, j'ai pu installer Oxio dans mon nouvel appartement. Je dois dire que l'installation s'est super bien passée. En fait, tu le fais essentiellement tout seul en 5 minutes. Le service à la clientèle est vraiment génial. Tu poses tes questions par texte, par courriel. On a des réponses très facilement. C'est clair, c'est détaillé. Vous pouvez visiter canadaland.oxio.ca pour choisir l'Internet d'une compagnie que vous pourriez réellement aimer. Donc, canadaland.oxio.ca et utiliser le code promo CanadaLand pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois. Et en plus, Oxio vous offre 60 jours d'essai sans risque. Et si vous n'aimez pas ça, Oxio vous rembourse tout votre argent. C'est aussi simple que ça.
T'as-tu entendu, Fred? Je demande à mon coloc parce qu'on est en train de se magasiner là, un plan à l'Internet. Fait que c'est bon, là, ça. Merci, là. Merci de l'avoir répété 2 fois plutôt qu'une en plus. Okay.
Vanessa, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci?
J'aimerais qu'on parle, qu'on parle davantage d'avortement. On en parle déjà beaucoup, mais je pense qu'on n'en parlera jamais assez, surtout du point de vue canadien. Je pense entre autres à Maxime Bernier, là, qui est chef là, du Parti populaire du Canada, qui s'est dit ouvert dans une vidéo sur Instagram notamment et sur Twitter, ouvert à ouvrir le débat sur l'avortement, qui selon lui ne serait pas clos, évidemment. C'est ça, donc pourquoi pas revenir 50, 60, 70 ans en arrière. C'est pas clos, ça fait 70 ans qu'on en parle. Mais comme, je pense qu'il y a encore des choses à explorer sur l'autonomie des femmes en évitant, bien sûr, d'écouter les premières concernées. Donc, c'est pratiquement ce qu'il nous dit à travers sa publicité. Tu sais, ça me choque, ça me fait peur.
Donc, il y a la pub de Maxime Bernier, moi-même étant originaire de la même région que Maxime Bernier, que je m'excuse au nom du peuple de Chaudière-Appalaches pour la production, l'imposition de Maxime Bernier à la sphère politique canadienne. Comme personne de Chaudière-Appalaches, je prends ma part de responsabilité.
C'est noté.
dans la production sociale de Maxime Bernier, mais c'est bien noté, Vanessa.
Merci, Émilie. Et toi, est-ce que tu as quelque chose dont tu voudrais nous parler, qu'il faudrait retenir?
Oui, j'ai envie de souligner le premier anniversaire de l'assassinat de Jovenel Moïse, le président haïtien. Il n'y a d'ailleurs pas de... qui était donc jeudi, le 7 juillet, premier anniversaire de son assassinat. Il n'y a rien de réglé en Haïti, mais il y a aussi beaucoup de journalisme vraiment intéressant qui s'est fait dans les derniers mois sur ces questions-là, dont bien sûr le fameux gigantesque, je dirais même historique, dossier du New York Times sur l'histoire d'Haïti, sur l'histoire de la dette en Haïti, publié en anglais, en français et en créole. Pour les gens qui n'auraient pas vu ça passer, je pense que ça vous aide vraiment à vous informer sur la situation en Haïti, sur le contexte de la situation en Haïti, d'aller voir ce dossier-là. Et j'avais envie de donner un shout-out aussi aux journalistes haïtiens qui continuent à faire leur travail dans le contexte politique extrêmement compliqué, extrêmement dangereux pour leur sécurité, qui est en Haïti actuellement.
C'est noté. Écoute, si je peux me permettre de rajouter le fait que, oui, on parle beaucoup de ce reportage du New York Times qui est effectivement majeur, légendaire, tu sais, du jamais vu. C'est fort, c'est important parce que ça légitime les doléances du peuple haïtien auprès de la communauté internationale, auprès de l'Occident, et ça, c'est un game changer. Mais il faut pas oublier que cette parole-là était bien vivante, puis on a tout fait, en fait, pour l'enterrer avant quand elle était portée par des personnes noires, tu sais.
Oui, absolument. Aussi bien noté, Vanessa. Dans les dernières semaines, il y a eu donc la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec, qui est la même journée, 24 juin, la fête du Canada et le 4th of July aux États-Unis. Il y a le 14 juillet qui s'en vient en France. C'est la saison des fêtes nationales. Vanessa, est-ce que tu as fêté quelque chose cette année?
Non, pour vrai, j'ai même pas vu ça arriver dans mon calendrier. Je pense que je me remets difficilement de la pandémie, puis tu sais, d'avoir eu des événements à distance en ligne, c'était pas la même vibe, puis on dirait que j'ai comme perdu l'habitude de me réunir pour célébrer ces deux événements-là que j'ai célébré avant dans ma vie quand j'étais plus jeune.
Les deux,
pour
ou...
moi, la... Les ouais. deux, ouais. Pour moi, la fête nationale du Québec, c'est synonyme de party au Parc Maisonneuve à Montréal. Okay. Et la fête du Canada, c'est plus familial, c'est des visites dans le Vieux-Montréal où il y a des jeux d'adresse pour marquer la fête du Canada, pourquoi pas. Donc, pour moi, ces deux fêtes-là sont vraiment synonymes. Là. Ils ont une odeur, en fait.
Ah ouais.
Pour moi, ça sent le sandwich à la crème glacée. Tu sais, c'est comme vraiment le coup d'envoi de l'été. Oui, c'est très précis. Mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression que ça donne le coup d'envoi aux vacances, que ça donne vraiment le coup d'envoi au congé. Évidemment, dans les dernières années, ça s'est davantage politisé. Peut-être de mon point de vue, peut-être que c'est moi qui a changé, pas tant la fête. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Il y a un contexte quand même dans les dernières années, surtout aussi avec la fête nationale du Canada, où c'est comme devenu super politique. On va se souvenir l'an passé de... En fait, le 1er juillet est tombé juste après toute l'actualité sur les tombes des enfants autochtones. Mm-hmm. Ça avait suscité beaucoup de questions là. Puis aussi, juste quelques années avant, il y avait eu le 150e anniversaire de la Confédération et toute la controverse aussi, les manifestations, l'occupation même de la colline parlementaire à Ottawa par les Autochtones pour dénoncer essentiellement la célébration complètement non critique, on va dire ça comme ça, de ce que la Confédération et la création du Canada veut dire. Puis c'est intéressant parce que cette année, quand je regarde la façon dont on a parlé de la fête du Canada, c'est comme si l'attention était sur les convois de camionneurs à Ottawa, alors que juste l'année d'avant, on était en train de dire « faudrait pas cancel Canada Day ». Il y a comme une espèce de glitch temporel qui fait que la conversation qu'on avait l'an passé sur le fait que la réconciliation n'est pas faite, ce serait peut-être le fun d'avoir une approche un peu plus critique, mais la réflexion critique sur la fête nationale du Québec, c'est un autre paire de manches. Il y a tout un contexte en ce moment avec la loi 96, la loi 21, ce que la CAQ fait pour parler de fierté nationale, etc., une redéfinition essentiellement de ce que ça veut dire la nation, puis le nationalisme, puis la fierté, de mettre un contenu plus conservateur dans ces définitions-là. Je me demande si ça a eu un impact sur le fait qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé de la Saint-Jean cette année politiquement. Est-ce que les gens célèbrent moins? Est-ce que le symbole de la fête nationale est en train de changer ou est-ce que les gens s'identifient moins à cette fête-là à cause du contexte politique?
Je pense qu'il y a un clash. On parlait de clash générationnel. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une génération qui peut-être accorde peut-être un peu moins d'importance justement à cette idée-là de patriotisme, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont fiers d'être Québécois, sont fiers de venir de Montréal, de Québec, de Granby, de Longueuil, de Laval, de Sherbrooke, tu sais, de Amqui, tu sais, mais c'est l'aspect patriotique est peut-être un peu moins là.
Ils vont
là,
pas se peinturer la face en bleu.
C'est ou se faire tatouer la fleur de lys. Tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose de très très générationnel que nous on est en train de perdre. Je pense que tout le monde ultimement est assez fatigué en fait, tu sais, de petites luttes intestines qui en fait monopolisent la discussion, tu sais, publique, notamment des politiciens. Tu sais, la question nationale, ça prend énormément de place alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus pressants au Québec, comme justement l'éducation, la santé, l'environnement, tu sais. Donc, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont pas prêts à consacrer autant d'énergie, genre, sur la place du Québec au Canada ou sur notre autonomie, considérant que c'est pas ça qui va régler nos problèmes, finalement. Tu sais.
En fait, puisqu'on est dans une émission, bien sûr, d'analyse de ce qui se passe dans les médias, j'ai l'impression qu'il y a, en fait, beaucoup de choses qui ne sont pas passées dans les médias autour de la fête nationale, qui est en fait aussi un silence éloquent. Puis c'est drôle parce que c'est comme ça qu'on a fini la première conversation aussi sur le pouvoir des silences, mais j'ai l'impression aussi que dans cette conversation-là sur les fêtes nationales, il y a peut-être aussi un silence qui est aussi très puissant sur l'humeur actuelle par rapport au drapeau, de manière générale. Ouais. Au Québec, au Canada, aussi, c'est sûr, aux États-Unis, avec la fusillade qui vient de se passer.
Les fusillades.
Oui, les fusillades qui se sont passées le 4 juillet et les manifestations sur la question de l'avortement durant les défilés du 4 juillet aussi. Je ne sais pas comment ça va se passer en France, mais il y a comme... c'est une année compliquée pour les nationalismes. Donc, c'est tout pour Détour pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Vanessa, d'avoir été avec nous.
Fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. C'est tellement le fun d'avoir un espace où on peut être deux femmes noires, sans intermédiaires blancs, qui ont la chance d'exprimer ce qu'elles vivent là, dans un univers où chaque prise de parole est un combat, tu sais.
Mouhahaha.
Je le voyais plus du côté emo, là, pas machiavélique, mais OK, on va le prendre.
Plus au sens, on lui laisse seul, pas de supervision, regardez ce que ça donne. Vous pouvez nous trouver sur Twitter à, bien sûr, CanadaLand. Vous pouvez m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment envie d'entendre vos commentaires. On est une jeune émission et tout le feedback qu'on reçoit, ça nous nourrit. Où est-ce que les gens peuvent te trouver, Vanessa?
Les gens peuvent me trouver sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook qui est Vanessa D. Je n'accepte que les gens que je connais, que j'ai déjà vus en personne, mais je fais régulièrement des publications publiques, donc vous aurez accès au plus important. Sinon, ça se passe sur Instagram, donc Danessa_Vestine. Alors, j'ai inversé la première lettre de mon prénom et de mon nom de famille pour faire Danessa_Vestine. Alors, c'est un compte qui est chaotique. Hein? Je vous dirais que c'est un mélange de professionnels, de personnel, de mimes, de déclarations politiques, etc., etc. Mais je pense que ultimement, c'est quand même bien, bien divertissant. Donc, venez jeter un coup d'œil. Puis si vous aimez ça, ben restez-y.
Et je veux aussi indiquer peut-être aux gens que tu co-animes la série Décoloniser l'histoire.
Ah oui.
Donc, la première saison qui est en ligne sur le site de Télé-Québec que les gens peuvent aller voir aussi, qui est très intéressante. Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio, la production technique est par Tristan Capacchione. Un grand merci à Kieran Houtshorn pour ses conseils à la production également. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux et parlez-en à vos proches. Un grand merci à Oxio, le premier partenaire du balado Détour, pour son soutien généreux. Vanessa, comme moi, je suppose que tu dois faire aussi beaucoup de télétravail.
Absolument. Ben en fait, en ce moment, je suis en train de taper à l'ordinateur. Je suis en train de répondre à 8 courriels.
Bon. <C'est pas vrai. rire> Et en ce moment, en fait, moi aussi. Donc, j'enregistre le balado de chez moi. Et c'est souvent le cas pour mon travail aussi, même à la télé, à la radio. Donc, c'est vraiment important d'avoir une connexion Internet à haute vitesse qui est fiable, n'est-ce pas, Vanessa?
Absolument, parce que un accident est si vite arrivé durant un Zoom qu'on n'avait pas envie de faire, vraiment.
Voilà, voilà. Donc, vous pouvez visiter canadaland.oxio.ca et utiliser le code promo CanadaLand pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois pour voir si c'est un bon fit pour vous. C'est aussi simple que ça.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.